réveillez sur internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est midi sur Radio Aviva. Radio Aviva, le flash info.
Bonjour à tous. Les enquêteurs continuent de chercher d'autres suspects après la mort de Philippe à Grande-Synthe, violemment agressé sur un parking de supermarché. Deux adolescents sont déjà mis en examen. Seul le plus jeune reconnaît avoir porté les coups. Il n'était pas seul, estiment les enquêteurs. Une marche blanche a eu lieu hier à Grande-Synthe. Elle a rassemblé 1500 personnes. Dans le Bas-Rhin, les parents de la collégienne décédée jeudi à Souffelweyersheim portent plainte. La jeune fille a fait un malaise cardiaque alors que son école était confinée après l'agression au couteau de deux fillettes. L'enquête devra déterminer les causes de la mort de la collégienne. Le suspect de l'agression, lui, a été interpellé. Aux États-Unis, l'homme qui s'est immolé par le feu à New York est décédé. Il s'est immolé hier devant le tribunal de New York où est jugé l'ancien président Donald Trump. On ignore encore les raisons de son geste. Nouveau bombardement au Moyen-Orient, cette fois en Irak. Un bombardement aérien qui a visé une base militaire occupée par des troupes de l'armée et d'anciens paramilitaires pro-Iran. L'origine de cette frappe n'est pas connue. Les États-Unis démentent avoir frappé l'Irak, fait savoir le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Marine Le Pen à Mayotte, en campagne pour les élections européennes. La présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale effectue une visite de deux jours, moins d'une semaine après le lancement de Wambushu 2, opération destinée à lutter contre l'insécurité et l'immigration illégale. Encore un week-end chargé sur les routes avec les vacances scolaires, journée classée orange dans les deux sens, en Auvergne-Rhône-Alpes, orange aussi en Île-de-France dans le sens des retours. Et notez que l'autoroute A13 vers la Normandie restera fermée entre Paris et Vaucresson au moins jusqu'à lundi inclus, conséquence d'un mouvement de terrain. Un mot de foot et cette très bonne nouvelle pour le Red Star FC, le club de National jouera en Ligue 2 la saison prochaine malgré la défaite de l'équipe francilienne contre Dijon 2-0 hier soir. À suivre aujourd'hui la 30e journée de Ligue 1, Nantes-Rennes à 17h et Lens-Clermont à 21h. Très bonne journée à tous.
Écoutez Radio Aviva partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphones et tablettes, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Perpignan, la radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture. Aviva.
Bonjour, c'est Charles Victor sur Aviva pour la chanson en or. Aujourd'hui, nous évoquons une icône de la variété italienne, Toto Cutugno, qui a disparu le 22 août 2023 à l'âge de 80 ans. Le chanteur transalpin est mondialement connu pour sa chanson L'Italiano, qu'il avait composée et interprétée en 1983.
Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Un giorno Italia che non si spaventa, con la crema da gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia. tintorie, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italiano vero.
Toujours en 1975, Toto compose pour Joe Dassin un autre tube, Et si tu n'existais pas, écoulé à plus de 150 000 exemplaires.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Compose en 1978 pour Michel Sardou la chanson En chantant. En 1990, il est le deuxième chanteur italien à remporter le Grand Prix de l'Eurovision avec le titre Insieme, une chanson sur l'Europe.
Tu che mi bevi nel caffè, tu in ogni uomo vedi me, tu che mi porti via con te. mi pensi in ogni via, a casa, a scuola e filo via. Tu che non puoi restare sola, tu che telefoni ogni ora e poi non dici una parola. Innamorata, innamorata, innamorata. Innamorata, innamorata, innamorata.
Toto avait coécrit la version italienne de Laissez-moi danser, un des plus gros succès de Dalida. L'artiste toscan interprète en live en 2002 cette chanson avec Hélène Segarra.
Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème.
Ma, c'est tout.
Coutinho a composé près de 300 succès et écoulé plus de 95 millions de disques à travers le monde. On se retrouve très vite sur Aviva pour d'autres chansons en or.
Aviva. Radio Aviva à Montpellier, Vendargue et Cours-Montéral, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Olivier Klein, bonjour. Vous êtes ministre délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et vous avez souhaité rencontrer les acteurs locaux et faire un point sur les actions engagées. Alors, votre premier ressenti après cette rencontre à la préfecture ?
C'est un ressenti très positif. D'abord, comme délégué interministériel et avec toute l'équipe de la DILCRA, on essaye de participer au plus de CORA possible. CORA, c'est un comité opérationnel. Et le mot opérationnel est important. Ça permet de voir ce qui se fait dans chaque département pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Parce que on peut pas lutter contre tous ces sujets aussi graves de Paris. Il faut regarder ce qui se fait dans chaque département, dans chaque ville. Et c'est vrai que ce comité opérationnel est le moment d'échanges, de bonnes pratiques entre les acteurs, entre les associations, entre les services de l'État. Il y a le procureur, il y a le préfet, il y a l'éducation nationale. Et c'est tous ensemble qu'on peut lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de haine. Et donc c'est pour ça que, autant que possible, on essaye de se déplacer dans ces comités opérationnels pour écouter et puis aller plus loin encore.
Nous nous inscrivons à Radio Aviva dans pédagogie et communication parce que nous croyons très fort à la prévention, à l'information, à l'éducation des jeunes, parce que c'est ce qui peut prévenir justement tout ce qui est acte de violence et discrimination. Et j'ai beaucoup apprécié l'idée de mettre en réseau toutes les associations qui étaient présentes, parce que dans le fond, j'avais le sentiment que parfois l'une ne connaissait pas ce que l'autre faisait.
Absolument. Personne n'est à l'abri des haines et on peut pas penser parce que on est concerné par les actes antisémites qu'on sera pas concerné un jour par les actes racistes ou par les actes anti-LGBT. On sait que la haine fait la place à la haine et donc c'est important et c'est aussi le sens de ces CORA que les associations se rencontrent, se parlent, échangent et nous au niveau national on fait de la même manière, on fait que les associations se rencontrent, échangent, parlent et agissent. Vous parlez de l'action dans les écoles, c'est une action extrêmement importante, déterminante, parce que je crois que tout commence par l'école et lutter contre les préjugés, eh bien, ça se fait à l'intérieur de l'école, le plus tôt possible, en direction de nos enfants, parce qu'ils sont sensibles à leur volonté de vivre ensemble, de construire ensemble, elle est très présente et c'est malheureusement parfois un peu plus tard que les choses se gâtent.
Dites-moi, le monde de l'éducation ne vous est pas inconnu puisque vous avez enseigné la physique chimie, que vous avez même été principal adjoint de collège. Alors, dans ce nouveau plan national qui vient de sortir et qui va jusqu'à 2026, il est marqué que chaque élève pourra être garanti d'une sortie scolaire pour visiter un lieu de mémoire ou d'histoire. Comment vous allez faire ?
Alors vous avez raison, c'est un moment très important du plan, ces visites mémorielles.
C'est une mesure concrète.
Alors, c'est une mesure concrète. On y travaille avec le ministère de l'Éducation nationale pour d'abord définir ce qu'est un lieu d'histoire et de mémoire. Moi, je crois qu'ils sont très larges. Il y a des musées, il y a des mémoriaux engagés dans cette volonté de construire un parcours. Il n'y a pas, comme ça a été dit aujourd'hui à Montpellier, de concurrence mémorielle. Tous les drames de notre histoire doivent concourir à éviter d'autres drames, à éviter le plus jamais ça. Donc c'est là-dessus qu'on se base. Donc c'est compliqué, hein, parce que comment on va faire pour compter, pour vérifier que chaque élève le fait. Mais en tout cas, c'est la volonté du gouvernement, c'est la volonté de la DILCRA, c'est la volonté de la ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de l'Égalité, Aurore Berger, de faire vivre cette partie très importante du plan.
Alors si je peux me permettre, comment vous allez faire pour faire en sorte que des professeurs qui n'arrivent pas à enseigner certains sujets dans leur classe s'engagent sur ces enjeux de cette lutte dont vous parlez ?
Moi, je crois évidemment, comme ancien chef d'établissement, qu'il n'y a pas de sujet tabou et qu'on doit pouvoir parler de tout.
Oui, mais il va falloir les former.
Alors, et c'est exactement ce que j'allais vous dire. Il faut, pour pouvoir parler de tout, être formé, ne pas avoir peur. Et malheureusement, parfois, cette peur peut exister, ou en tout cas, cette appréhension peut exister. Mais moi, je le vois, je suis aussi maire d'une ville populaire, Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. J'ai accompagné, avec des professeurs, des élèves de ma ville, au mémorial de la Shoah à Paris, au mémorial de la Shoah à Drancy. On a accueilli Ginette Colinca il y a quelques semaines à Clichy-sous-Bois. Et je le disais à Madame Colinca, moi qui étais enseignant, j'aurais aimé avoir le silence qu'elle a eu pendant ses explications. Donc je crois que il faut aussi, même dans des moments difficiles, garder notre part d'optimisme et ne jamais renoncer. Et donc dans la délégation que j'ai l'honneur d'animer, cette délégation si importante de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, eh bien notre devoir c'est de ne jamais renoncer, de croire que le vivre et le construire ensemble est possible et de refuser toute forme de haine. Et évidemment ça part beaucoup avec les enfants des écoles.
Tout à fait. Et cette lutte elle doit se battre sur tous les fronts.
Et cette lutte elle se bat sur tous les fronts avec les associations, avec les citoyens engagés, avec les élus locaux, avec notre pays tout entier et sa belle République.
Merci beaucoup de votre visite.
Merci.
Merci encore.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
those who drinks bring back all the memories, yeah. And the memories bring back, memories bring back your.
L'amour sans tabou sur Aviva. Une émission proposée et présentée par le docteur Yann Quintilla, psychiatre de la clinique de l'anxiété à Montpellier.
Bonjour à tous, nous retrouvons Dina Sergus, notre psychothérapeute spécialiste des questions d'amour. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose de central qui sont les émotions. La question de la crise émotionnelle dans le couple, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et comment s'en sortir ?
Donc les émotions en fait font partie de nous, hein, donc pour prendre conscience de ce qui se passe dans le couple, en fait il faut accepter de prendre la responsabilité de ces émotions toxiques. Souvent on renvoie toujours la faute au partenaire sans se dire que soi aussi on peut être finalement responsable de ce qui se passe de manière négative, de nos projections sur le comportement de l'autre, nos projections sur l'attitude de l'autre. Donc ça c'est aussi très important pour finalement pallier aux effets donc des crises émotionnelles, parce qu'on est tous soumis au fait d'avoir à gérer donc des émotions avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Donc c'est intéressant donc de finalement vraiment se dire qu'on peut être responsable de ce qui se joue également dans la dynamique communicationnelle de la relation.
Ça c'est très intéressant parce qu'effectivement souvent dans une crise on se dit c'est la faute de l'autre, il m'a poussé à bout, et en fait se dire aussi que c'est peut-être en partie, on en est en partie responsable, pas forcément fautif, c'est très intéressant. Et comment arriver à se remettre en question justement et à dépasser cette crise émotionnelle ?
Il est important donc d'arrêter de réprimer en fait ces émotions, comme je disais, négatives, et de les exprimer au fur et à mesure qu'elles se présentent. Donc tu n'as pas, tu allais encore laisser ton bol dans l'évier, ça me dérange. Ben vraiment apprendre peut-être à faire des critiques avec bienveillance. Quand tu laisses, voilà, éviter le tu qui tue, comme on dit. Quand tu laisses ton bol dans l'évier, ça me rend triste. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager un comportement alternatif ? Donc, c'est vraiment travailler sur sa communication, hein, faire en sorte qu'elle soit le plus bienveillant que possible, et proposer en fait une ouverture.
Oui, ça me rappelle quelque chose que j'avais entendu de notre psychothérapeute, le moi-je sentiment, hein, c'est-à-dire au lieu de dire tu, dire moi je ressens de la tristesse parce que tu as laissé ce bol-là, c'est ce parallèle qu'on peut faire ?
Exactement, c'est vraiment apprendre, bon c'est exigeant, mais c'est apprendre à communiquer différemment et communiquer de manière efficiente. Parce que ce qui va venir, entre guillemets, altérer en fait la relation et altérer en fait les représentations qu'on peut avoir, c'est, comme je disais tout à l'heure, ce tu accusateur. C'est face à un comportement... Et souvent, en fait, dans une dynamique de couple, dans une relation de couple et dans le quotidien, on a des comportements aussi comme ça qui peuvent être un petit peu répétitifs ou routiniers, mais qu'on peut faire sans en vouloir à l'autre, en fait. Celui, enfin, je sais pas, tu mets pas tes chaussettes, les chaussettes qui traînent ou que sais-je, ou voilà, le bol dans l'évier qu'on met pas forcément dans la vaisselle. Donc c'est vraiment des petits comportements comme ça qui peuvent finalement faire chauffer la cocotte. Et souvent en fait dans une émotion, quand on n'a pas appris donc à les exprimer, ce qui se joue là, c'est souvent une émotion passée qu'on vient attribuer en fait au comportement de son partenaire, alors qu'on n'a pas fait le tri et qu'on n'a pas épuré en fait ces émotions. Donc c'est ce qui est important de faire, c'est vraiment travailler son terrain émotionnel pour être dans un échange en fait plus constructif avec son partenaire.
Et ça, j'imagine que c'est très difficile à faire parce que finalement les émotions, on n'apprend jamais à les gérer. Comment vous faites-vous?
Apprendre à faire de la place en fait à des émotions plus positive et apprendre aussi à connaître en fait dans quel style de communication on est. Est-ce que je suis plutôt j'ai tendance à plutôt faire des critiques, est-ce que je suis plutôt dans l'argumentaire, est-ce que j'ai une attitude méprisante, donc vraiment être au clair avec ce qu'on va ce que la remarque de l'autre va venir activer chez moi en termes de sentiment de culpabilité, en termes de questionnement et pourquoi finalement s'interroger sur pourquoi je le prends mal aussi, parce que l'autre il peut me dire ça parce que lui il est gêné, mais c'est pas forcément parce qu'il m'en veut véritablement, c'est plutôt le comportement en fait qui le dérange.
Quand je vous écoute, Dina, je me dis qu'il y a vraiment tout un travail à faire, ça a l'air passionnant, j'ai envie de vous faire confiance. Dans ce couple, vous disiez que la crise est la rencontre de deux personnes. Quand soit on décide d'entamer un travail, comment on se positionne par rapport à l'autre?
Comprendre déjà ses réactions, comprendre l'interaction vient susciter chez soi. Donc il y a des choses en fait qui permettent de pallier à tout ça. Donc souvent on utilise donc la sexualité comme exutoire au stress, comme exutoire à ces petits conflits du quotidien. Ce que je recommande souvent, c'est la sexualité, oui, elle peut être un outil intéressant, mais la sexualité en pleine conscience, qu'on appelle vraiment, on entend beaucoup parler de slow sex, il y a beaucoup d'ouvrages en fait qui sortent sur le slow sex, c'est-à-dire faire donc l'amour en pleine conscience, c'est-à-dire prendre conscience déjà donc de ses réactions physiologiques quand on fait l'amour, et s'offrir aussi en pleine conscience. Donc du coup ça peut être quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir aussi le fait de lâcher aussi le mental, comme je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on me fait une réflexion sur un bol qu'il m'en veut personnellement. C'est plutôt mon comportement qui est remis en cause et pas moi en tant que personne. Donc voilà, donc reprendre conscience en fait de ses blessures et de ses susceptibilités. Donc ça peut être intéressant.
Vous savez que dans cette émission, notamment avec Florence, nous parlons aussi de sexualité. Ce slow sex, vous pouvez nous en dire plus pour savoir comment on peut le pratiquer, entre guillemets?
Oui, oui. Donc, vous pouvez. C'est vraiment créer donc une atmosphère apaisante et bienveillante autour de la sexualité pour pouvoir être à la fois prendre conscience de son intériorité en fait, ce qui se passe vraiment intérieurement, pas être sur quelque chose de très mécanique. Hein, donc, et surtout comme je disais tout à l'heure, quand la sexualité était utilisée donc à des fins pour résoudre un conflit, il peut y avoir quelque chose de très brusque et de très pulsionnel. Donc là, c'est vraiment repartir un petit peu sur le fait de chercher donc la connexion et chercher le don en fait qu'on va faire à l'autre et faire quelque chose qui sera salvateur et régénérant pour les protagonistes.
Mais je crois qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Ça laisse plein de perspectives pour nos auditeurs. Je vous remercie, Dina Serguste. Vous êtes vraiment très au fait de ces choses-là et vous travaillez dans votre cabinet au Polygone à Montpellier. Avec l'amour sans tabou, on vous retrouve bientôt. Cette émission est à consommer sans modération.
L'amour sans tabou sur Aviva. Une émission proposée et présentée par le docteur Yann Quintilla, psychiatre de la clinique de l'anxiété à Montpellier.
Radio Aviva.
Bon week-end.
Bon week-end. Post-it, un tube, un jour, avec Charles Victor.
Aujourd'hui, la chanson Santé, écrite, composée et interprétée par l'artiste belge Stromae. Morceau sorti le 15 octobre 2022, tiré de son troisième album studio, certifié double disque de platine, écoulé à 800 000 exemplaires dans le monde.
Post-it, un tube, un jour, avec Charles Victor.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi.
toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
La suite de Post-it demain sur Aviva avec Aurel San.
Post-it, un tube, un jour avec Charles Victor.
Les chroniques d'HEJ Montpellier sur Radio Aviva.
Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux Olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.
Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour cette émission spéciale consacrée à la nature. Cette édition est réalisée par les élèves de l'Institut supérieur des hautes études de journalisme de Montpellier. Alors que notre environnement se trouve de plus que jamais en détresse et que pour certains l'espoir semble perdu, d'autres refusent de tourner le dos aux espèces les plus à risque. Au parc ornithologique du Pont de Gau, Timothy Auger, vous êtes parti à la rencontre de ces passionnés de nature.
Et oui Maxime, c'est ici, en Camargue, que l'on apprend à découvrir le monde qui nous entoure, plus particulièrement les espèces qui peuplent le ciel français et celles et ceux qui ont consacré leur vie à leur protection. Entouré d'une dizaine d'hommes et de femmes, Frédéric Lamouroux, directeur du parc de père en fils depuis 3 générations, œuvre chaque jour à la préservation de près de 250 espèces d'oiseaux. Un travail qui passe avant tout par la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux. Il faut apprendre pour comprendre.
La proximité que l'on va avoir ici, elle n'est pas juste pour admirer, elle est aussi surtout pour mieux comprendre. Si je suis à 25 mètres des flamants, 20 mètres, peut-être des fois 10 mètres, je vais les voir mieux, forcément. Je vais mieux comprendre leur façon de se mouvoir, leur comportement. Je vais aussi mieux les admirer. Je vais pouvoir trouver ça beau. Je vais créer en fait un lien avec. Et ce lien, il va me permettre derrière de pouvoir avoir un avis différent, un regard différent, et donc peut-être d'être plus protecteur.
Cette sensibilisation n'est efficace qu'à partir du moment où le public dispose d'une certaine proximité avec ces animaux. Alors que certaines espèces fuiront si vous vous en approchez de trop près, d'autres, comme les flamants roses de Camargue, semblent imperturbables même quand vous les admirez à seulement quelques mètres de distance. Il faut voir pour comprendre.
Alors pour moi, la sensibilisation, elle ne vaut que si elle est largement diffusée. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces gens, d'aller sensibiliser ce public mais on va essayer de leur raconter tout le temps une histoire et de tout le temps les intéresser à ce qu'ils vont voir. C'est hyper important pour nous parce que l'idée, c'est que les gens sortent de là, non pas forcément en connaissant trois nouvelles espèces d'oiseaux, ça n'a pas un intérêt majeur. Par contre, de comprendre les interactions entre le milieu, l'habitat, un environnement et les oiseaux qui vont le peupler, ça c'est intéressant. Ça permet aux gens de comprendre l'espace dans lequel ils sont, de ne pas être hors sol et de pouvoir ensuite, même chez eux, dans un jardin, un balcon, peu importe, pouvoir observer la faune qui les entoure et pouvoir admirer ça. Ça, c'est hyper important.
Le parc est ouvert de jour comme de nuit, offrant aux différents visiteurs des points de vue à toutes les heures de la journée. Sur plus d'une cinquantaine d'hectares, le domaine est bâti sur mesure pour accueillir dans les meilleures conditions les spécimens selon les périodes migratoires. Un travail de fourmi qu'il faut entretenir et protéger coûte que coûte.
Avis aux curieux, selon une étude publiée sur Nature et Communication, en près de 120 000 ans, on estime que plus de 1450 espèces d'oiseaux auraient disparu à cause des humains. Chouchouter nos toutous, prendre soin de nos matous, tout un programme pour les amoureux de nos amis à poil. Aujourd'hui, le bien-être animal compte et pas qu'un peu. Mathis Brachet, est-ce que vous avez des animaux ?
Bonjour tout le monde. Alors non, Maxime, je n'ai pas d'animaux. J'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord être prêt mentalement pour en avoir un, car un petit toutou implique de grandes responsabilités. De mon humeur et de mon porte-monnaie peut dépendre ces journées. Alors il vaut mieux être sûr d'être très impliqué. Car s'occuper d'un chien, c'est ça. En dépit de la maladie, de la flemme ou de ce nouveau show télévisé, il faut le promener, jouer avec lui, donner à manger, le brosser, parfois même l'amener au vétérinaire en panique. Tout autant d'activités qui peuvent paraître ennuyeuses, mais qui sont en réalité très plaisantes, car c'est un moment partagé avec votre meilleur ami. Meilleur ami qui vomira dans votre sac à dos avec votre ordinateur et appareil photo dedans ensuite.
Ça sent le vécu tout ça, Mathis.
Ça pue le vécu effectivement, Maxime, d'autant plus que ce n'était pas le mien de chien. Alors je parle de chien, mais parce que je les aime, mais le bien-être animal, ça touche tous nos amis à poil ou à plume. L'ANSE, l'Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire et Alimentaire, a défini le bien-être animal comme étant l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Autrement dit, Maxime, Médor a besoin de sortir, ton chat d'avoir de quoi manger et à boire, ton perroquet des caresses et tutti quanti. Maxime, je ne suis cependant pas sûr qu'habiller son animal de compagnie en tyrannosaure, Père Noël ou simplement le faire porter des vêtements parce que c'est trop cute, comme le fait une partie de la population, puisse rentrer du coup dans cette catégorie. Je veux dire, enfin, ça se saurait si les teckels avaient un instinct grégaire de s'acheter du Prada ou les persans du Hermès. Ceci étant dit, la notion de bien-être animal progresse. Les animaleries ont l'interdiction de vendre depuis le 1er janvier 2024 des chats et chiens. Et des festivals pour promouvoir le bien-être festival sont organisés maintenant. On fait attention à nos amis à poil. De belles avancées qui sont d'autant plus tristes quand on sait que plus de 16 000 animaux ont été abandonnés en 2023 selon la SPA. Et c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de chemin à faire.
En 2020, la France comptait quand même plus de 77 millions d'animaux de compagnie. Se reconnecter à la nature par des stages immersifs, c'est le projet que défend notre invité d'aujourd'hui, j'ai nommé Marc Reinhardt. Alors Marc, pour vous situer, vous êtes guide de pleine nature, mais aussi psychomotricien. Deux facettes que vous employez pour proposer ces fameux stages, parfois extrêmes, qui ont lieu dans l'arrière-pays montpelliérain et ses alentours. Alors concrètement, en quoi consistent ces virées sauvages ?
Dans les activités de pleine nature, plutôt sur des deux jours, trois jours, j'avais fait anciennement des stages Koh-Lanta, que j'ai converti après en stage survie. Donc la survie, ça a bien marché pendant 7-8 ans facilement. Hein. C'est des phénomènes de mode et ça marchait bien aussi il y a 25 ans. C'est un peu disparu, c'est revenu, ça a un peu augmenté avec le Covid, là ça rebaisse de nouveau. Bon, ce qui se passe, c'est que les gens découvrent que la vraie survie n'a rien de ludique, c'est très éprouvant. Et donc, en général, ils font un stage et puis bon, ils ont vu que c'était pas très rigolo et que c'était mieux le confort. D'ailleurs, en l'occurrence, j'ai le stage de survie le plus dur d'Europe, a priori. Donc, vous partez avec la tenue du jour, je vous donne un couteau, un trousseau de survie avec un peu d'équipement, un briquet magnésium, du fil de pêche, une couverture de survie, etc. Et une bouteille d'eau et on est parti pour 100 km. Là dans les Cévennes, sans nourriture et sans matériel de bivouac. En plus, souvent quand on le fait, il gèle la nuit. Donc vous voyez la difficulté. les clients perdent 3 à 4 kilos sur les 3 jours. Voilà. Bon, après, je fais, ça c'est exceptionnel. Je fais surtout des stages plutôt version un peu Koh Lanta. Donc, c'est plutôt une super expérience nature avec, avec formation survie, mais il n'y a pas de privation alimentaire. Il n'y a pas de distance colossale à franchir. On dort dans un duvet, un tapis de sol, on bivouac. Voilà. Donc, en fait, c'est plutôt une super expérience nature avec formation survie. Et c'est ce qui correspond plus à la demande puisque les gens sont en manque de connexion nature. Et là, ils arrivent à se déconnecter complètement de la civilisation, des smartphones, des écrans, pour passer 2-3 jours dans la nature, en apprenant les bases de la survie, puis surtout voilà, apprendre à bivouaquer, à se déplacer, ce genre de choses. Hein, voilà.
Et qu'est-ce qui pousse les gens à venir vivre ce genre d'aventure selon vous ?
Alors, j'ai des gens qui cherchent l'extrême. Alors, ceux-là, ils viennent dans la survie extrême. Ils veulent pousser la machine à l'extrême, comme c'est moi qui ai le stage le plus dur. Voilà. Bon, voilà, c'est extrêmement éprouvant, y compris pour moi, hein, pour encadrer. J'en fais en moyenne un par an, un stage comme ça. Hein. Après, les autres viennent plutôt pour se reconnecter à la nature et apprendre les bases de la survie, parce qu'ils se disent, bon, bah, vu l'air du temps, on ne sait jamais, tout peut s'arrêter très vite et... ils se rendent compte qu'en fait ils ne savent vraiment pas se débrouiller seuls dans la nature. Voilà. Donc c'était un peu le public que j'avais avant pour les stages Koh Lanta. J'ai aussi d'ailleurs pas mal de gens qui viennent, qui postulent à l'émission Koh Lanta et qui viennent chez moi pour apprendre un peu les bases ou se tester. Voilà. Donc c'est des publics différents entre les différents niveaux de survie, hein, entre ceux qui cherchent à s'éprouver et à tester les limites et ceux qui viennent plutôt pour se connecter à la nature, vivre une expérience nature et apprendre les bases de la survie. Voilà.
Et tout de suite, une petite pause musicale sur Radio Aviva. Je vous laisse avec Mamma Mia d'Abba.
Les chroniques d'HEJ Montpellier. Aviva.
voilà de retour après ce petit intermède musical pour la suite de notre interview. Marc, au fond, quel est cet apport de la nature que l'on découvre lors des stages ?
Tout le monde se rend compte que notre civilisation nous amène à... On vit dans des cubes en béton, on roule dans des boîtes en fer, on est devant des écrans, on mange de l'industriel, enfin voilà, alors qu'on a un corps qui a été optimisé dans des millions d'années pour courir, chasser, pour se déplacer dehors, pour vivre avec très peu de choses en fait. Hein, et donc au bout d'un moment, on se retrouve à force de consommer de l'écran et de la civilisation intensive hors activité physique, hors nature, on se retrouve souvent un peu déconnecté puis déséquilibré. Donc voilà, les gens, là ça c'est la bonne surprise de ce genre d'expérience, c'est que les gens se rendent compte que ça leur fait un bien fou. Hein. Donc je suis aussi psychomotricien, j'utilise aussi ce support dans le cadre de la psychomotricité. Spécialement avec des enfants que j'emmène faire de l'escalade, de la spéléo, de la randonnée aquatique, etc. Et donc, y a le même effet, clairement, chez les enfants, et ça permet aussi de regagner un équilibre. Voilà, donc clairement, voilà, je n'ai rien inventé, hein, donc le support pleine nature, il nous fait toujours du bien au 21e siècle, comme il y a 1000 ans, comme il y a 10 000 ans, comme il y a 100 000 ans. Hein. Et notre malheur actuellement, c'est qu'on est un peu beaucoup déconnecté.
Et d'ailleurs, comment combinez-vous votre casquette de psychomotricien et ce cadre naturel ?
Alors là, pour le thérapeutique, j'ai un peu testé moi-même à l'époque. J'étais pas mon modèle d'équilibre quand j'étais jeune. Et on va dire, ma thérapie pour la nature, c'était de l'alpinisme intensif. Et puis au bout de quelques années d'alpinisme intensif, j'habitais à Chamonix d'ailleurs, finalement, je me suis rendu compte que tout allait bien, que j'étais parfaitement équilibré, que j'étais en super forme, en forme olympique même. Et donc voilà, ça a été l'idée de départ pour proposer ça finalement à d'autres personnes. Et j'ai repris d'ailleurs en deuxième temps une formation de psychomotricien pour justement développer ça. Donc j'ai fait ça par la suite. Je fais ça depuis 16 ou 17 ans avec des résultats même spectaculaires. Après, il y a aussi du résultat aussi sur les stages de survie, sur les stages Koh-Lanta. J'ai aussi un escape game nature. Je fais aussi des séminaires team building nature. Voilà, finalement, comme je l'expliquais au début, le support pleine nature, en fait, il marche vraiment, vraiment très bien.
Et pour ceux qui seraient intéressés par ces stages, rendez-vous sur le site Nature en Mouvement pour plus d'informations. Fumée tue, fumée pollue, le mégot jeté à même le sol a des conséquences néfastes pour la nature. Une explication par Mathis Brachet.
Écraser son mégot et le jeter par terre. Un geste qui semble anodin mais qui coûte cher à la planète. Jusqu'à 4000 produits chimiques toxiques sont répertoriés dans ces filtres usagés, comme du plomb, du cadmium ou du polonium-210. Florestan Fournier est coordinateur à l'association CLOP de Montpellier. Il explique que si les mentalités commencent à changer, il reste encore du chemin à parcourir. On l'écoute.
La conscience commence vraiment à prendre. Il y a quelques années, peu de personnes savaient ce qu'était un cendrier de poche et à quoi ça pouvait servir. Aujourd'hui, les fumeurs et fumeuses nous demandent spontanément de l'utiliser. Par contre, au niveau de la quantité de mégots jetés au sol, malheureusement, on en retrouve toujours autant. On ne désespère pas un jour se retrouver avec zéro mégot retrouvé au sol.
Le problème pour notre environnement, c'est que les éléments contenus dans le mégot sont hydrosolubles, ce qui veut dire qu'au contact de l'eau, ils se diffusent très rapidement. Un mégot dans un litre d'eau, et c'est la moitié des poissons qui meurent en une heure. Un mégot dans 500 litres d'eau, et tous les petits crustacés et micro-algues deviennent stériles. Alors comment faire pour endiguer cette pollution ? Une solution toute simple pour Florestan. Le cendrier de poche.
C'est tout simplement ce jet de mégot au sol qu'on veut totalement bannir de nos sociétés. Un cendrier de poche sur soi, histoire d'avoir toujours un endroit où jeter correctement si jamais on est dans la nature, par exemple, et qu'il n'y a rien. Mais sinon, juste attendre de croiser une poubelle pour le faire, c'est pas si dur que ça. Donc c'est vraiment juste une question de bonne volonté. Il faut que tout le monde s'y mette. Et avec un petit peu de bonne volonté, on arrivera à corriger ça.
Un cendrier nécessaire puisque ce sont 20 000 tonnes de mégots qui sont ramassées chaque année en France.
Soit 1000 mégots qui sont jetés chaque seconde sur le territoire français. Et c'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site internet de Radio Aviva. Merci de nous avoir suivis.
C'était les chroniques d'HEJ Montpellier sur Radio Aviva.
Les élèves journalistes vous font vivre l'actu du territoire. Sport, Jeux Olympiques, culture, gastronomie, société. Un regard neuf sur notre quotidien.
Radio Aviva à Montpellier, Carnon et Saint-Gély-du-Fesc, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Radio Aviva, Xavier Nataf.
Retrouvez-moi tous les jours à 14h pour 30 minutes cousu main de recommandations culturelles, de portraits au long cours, de collages sonores et de musique éclectique.
Sans toi, elle a mal.
vivre sans toi.
Leave each other alone like this on the streets of Philly.